Nous sommes donc notre série d'études du livre des Proverbes, livre écrit par Salomon à l'attention des jeunes hommes, qu'on peut étendre aussi aux jeunes femmes bien sûr, mais duquel nous pouvons tous en tirer d'importantes leçons de vie. Et il est d'ailleurs assez remarquable qu'une bonne partie des conseils de conduite, de vie qui sont donnés justement dans ce livre concernent autant les enfants de Dieu, chrétiens, que les non-chrétiens, que les autres. Et bien des principes, des proverbes, sont pris, repris dans l'éducation des enfants, dans les relations humaines, dans la gestion des biens, des entreprises, etc. Ceci pour dire que notre Dieu, qui a bien entendu inspiré, donné ses principes, ses règles de vie, est un Dieu d'ordre, un Dieu qui sait ce qui est bon pour l'homme, la femme, chrétien ou pas, mais qui, à travers son œuvre de Jésus-Christ, prenne une toute autre dimension dans la vie de chacun. Il ne s'agit plus que de beaux principes, mais d'une nouvelle vie, basée sur des valeurs du royaume de Dieu, qui sont l'opposé de ce que propose le royaume du monde et Satan. C'est donc dans de nombreux aspects tout à fait pratiques et concrets que Dieu, par Salomon, nous enseigne le chemin qu'il est bon de suivre, ouvrant à de nombreuses bénédictions, ici sur cette terre, mais aussi dans l'éternité. Mais il n'oublie pas non plus de dénoncer le mauvais chemin, celui du monde, avec ses conséquences immédiates et éternelles. Quel est le mot-clé qui accompagne l'ensemble du livre des Proverbes comme un leitmotiv, et on en a déjà parlé? Quel est ce mot? La sagesse. La sagesse, mais non pas celle des hommes ou celle du monde, mais la sagesse d'en haut, la sagesse divine, incarnée en Jésus-Christ. Et Salomon va décliner dans beaucoup de domaines de vie comment la sagesse va être mise en application de manière concrète. Et comme le texte que nous avons lu au début du culte nous le rappelait, sans une volonté propre de se laisser enseigner, de se laisser changer, vous pouvez lire autant de fois les proverbes que vous voulez, ça ne changera rien à votre vie. Et je vous invite donc à lire Proverbes chapitre 5 aujourd'hui. Comme un rappel du fil rouge du livre, Salomon commence par rappeler à son interlocuteur qu'il doit rester attentif à la sagesse enseignée, afin d'avoir de la clairvoyance dans le thème abordé. Sois attentif à la sagesse que je t'inculque. Prête l'oreille à mes paroles qui t'enseignent la raison. Clairement, Salomon s'attaque dans ce chapitre à un sujet sensible, la fidélité dans le couple, dans le mariage, et touche du coup aussi un autre aspect, la pratique sexuelle et le cadre qu'en donne Dieu. Pas facile. Sujet pas toujours évident à aborder, qui ne concerne pas forcément tout le monde. On peut se dire sujet tabou pour certains, quoique. Dans la Bible, le sujet n'est en tout cas pas du tout tabou. Et c'est un sujet abordé autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, dans de nombreux versets. On peut se dire que dans ce cadre-là, Dieu a quelque chose à nous dire, s'il en parle tellement. Et au même titre que l'argent, les biens, le pouvoir, la reconnaissance, la sexualité, le mariage, fait partie des trois sujets les plus cités dans la Bible, dans la mise en garde des dérives possibles, si on ne s'applique pas à suivre les ordonnances de Dieu dans ces domaines. Il est clair que pour notre monde, la liberté sexuelle n'est absolument pas taboue. Au contraire, tout est fait pour que plus rien ne semble anormal. Tout est possible, tout est permis. Nous vivons dans un monde hyper sexualisé. Il n'y a qu'à regarder un peu autour de vous. Quasiment pas un produit ne se vend sans une référence à la beauté physique, l'attirance du corps, de l'autre, par tous les moyens. Alors dans un tel monde, quel défi pour nous chrétiens et pour nos jeunes de savoir quelle est la voie que Dieu aimerait nous voir suivre. Toute la première partie du proverbe est consacrée à dénoncer la folie de l'infidélité dans le mariage et ce qui peut y conduire. Salomon décrit un peu l'ensemble du processus et ses conséquences. La première chose, verset 3, la tentation. Celle de la femme adultère distille des paroles mielleuses. On est sur la tentation verbale. Comment est-ce que je réagis à ce que je peux entendre de la bouche d'une autre personne? Ou bien, de manière plus subtile, à ce que je peux entendre dans les médias sur l'infidélité? Mais non, rien de grave. À essayer autre chose, à avoir plusieurs partenaires, à t'épanouir personnellement de ton côté. Combien de fois n'entend-on pas « Nous sommes un couple libéré ». Est-ce que petit à petit je me laisse envahir par cette pensée du monde que finalement il n'y a rien de grave? Allez-y, laissez-vous aller, à vos pulsions, quelles qu'elles soient. Voilà une question que nous devons nous poser chacun, individuellement, mais aussi en couple. Sa langue est plus onctueuse que l'huile. Là, nous sommes maintenant clairement dans l'attirance physique, au goût du plaisir. Et dans ce domaine aussi, le monde, comme je l'ai déjà évoqué, est ultra sexualisé. Dans toutes ses représentations, que ce soit des hommes, des femmes. Sur les réseaux sociaux, combien de publications ne sont pas à caractère évocateur? Et on y voit des personnes, hommes, femmes, exhiber leur corps, souvent très peu vêtus d'ailleurs, faire pour faire un maximum de vues. Vous voulez un chiffre qui fait peur? En 2020, donc il y a plus d'un an, 44% des jeunes, donc moins de 25 ans, déclarent, donc on oublie tous ceux qui n'osent pas le dire, ont pratiqué le sexe sur les réseaux sociaux. Donc en envoyant des photos, vidéos, pour exciter l'autre jusqu'à provoquer du plaisir. 44%. Imaginez avec l'explosion actuelle des réseaux, combien le pratiquent maintenant? Et à cela, vous ajoutez tous les adultes qui le pratiquent aussi. Ramenez ces chiffres au nombre de personnes qui fréquentent les réseaux sociaux. En mai 2021, 4,33 milliards d'utilisateurs, c'est-à-dire 55% de la population mondiale, plus de la moitié. Oui, on peut tromper son mari, sa femme virtuellement, c'est une réalité. Et que disait Jésus lui-même sur la tentation? L'adultère, Matthieu 5, 27-28. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas l'adultère ». Eh bien moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc la tentation, on peut y succomber également virtuellement. Jésus dénonce déjà l'intention qui peut naître dans le cœur de quelqu'un en se chargeant de désir pour une autre personne que son conjoint. Ce qui se passe dans notre cœur, c'est évidemment entre nous et Dieu, qui, comme on l'a chanté, sonde nos cœurs. Mais en tout cas, aucune de ces pensées, envie, ne passe inaperçue aux yeux de Dieu. Les conséquences. Versets 4 à 14. Une conséquence souvent immédiate de l'acte commis en dehors de celui prévu par Dieu, après un plaisir souvent bref, succinct, et ce sentiment d'amertume dont parle Salomon. Cette amertume, l'illusion d'avoir été trompé sur la marchandise. Salomon parlait de la langue onctueuse plus que l'huile au verset, juste avant et maintenant sur l'amertume de l'absinthe, plante vénéneuse. Voilà encore un mensonge du royaume du monde. Il fait miroiter un plaisir, une douceur extraordinaire, alors qu'en réalité se cache derrière de l'amertume, une déception d'un bonheur, d'un plaisir finalement pas assouvi. Ce qui pousse souvent à recommencer, recommencer et encore recommencer. Salomon va ensuite plus loin dans les conséquences de la pratique d'un tel péché. Sur le chemin où mène cette tentation, une épée à deux tranchants. Ses pas aboutissent au séjour des morts, il a écrit. Les choses sont claires, une telle pratique ne peut pas être acceptée par notre Dieu. Salomon donne ensuite des conseils et supplie son interlocuteur de ne pas rejeter ce qu'il est en train de dire. Éloigne-toi d'une telle femme, ne t'approche pas de l'entrée de sa maison. Et de manière plus générale, on peut ainsi dire à chacun, éloigne-toi de la tentation, ne t'approche pas de l'entrée de sa maison. Et il ajoute d'autres conséquences possibles à une telle pratique. La perte de dignité, le gaspillage des années de ta vie, la perte du produit de tes efforts, du fruit de ton travail. Ça va même plus loin que juste ce qui me concerne moi personnellement. Cela peut conduire aussi jusqu'au gémissement à un corps tout entier épuisé. Salomon ne mâche pas ses mots, car il veut éviter à son interlocuteur toutes ses souffrances et de le regretter un jour. Que tu ne dises « Comment donc ai-je pu haïr l'éducation ? Pourquoi ai-je dédaigné les avertissements ? Pourquoi n'ai-je pas écouté ceux qui m'ont enseigné ni prêté attention à ceux qui m'instruisaient ? Me voilà vite tombé dans le pire des malheurs au milieu de l'assemblée du peuple. » Alors mes amis, ne succombons pas à la tentation. Ne nous mettons pas dans des situations qui pourraient nous tenter. Si je peux dire, ne tentons pas le diable. Salomon décrit d'abord l'horreur de l'infidélité et passe ensuite à la deuxième partie de notre texte, à la beauté de la fidélité. Bois les eaux de ta propre citerne et celles qui jaillissent de ta fontaine, qu'ils soient pour toi seul. Se contenter, rester fidèle à ton conjoint, ne partage pas ni son corps, ni le tien. Salomon rappelle ici que dans le mariage, il y a l'unité. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Genèse, le début. Et Jésus de rajouter dans le Nouveau Testament, dans Marc, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Sachons chérir et aimer ce que Dieu nous a donné, confié, en commençant par notre propre corps et celui de notre conjoint. La joie de l'autre. Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Bicharmante, gracieuse gazelle, que ses charmes t'enivrent toujours et que tu sois sans cesse épris de son amour. Trouver l'autre beau, se laisser enivrer de l'autre sans cesse. Et on peut distinguer ici deux aspects. Faire sa joie de l'autre, la trouver belle, le trouver beau, cela passe aussi par lui dire, lui rappeler régulièrement. J'avoue pour ma part certainement pas le dire assez aux yeux de Tania. Et on peut facilement se laisser aller à la remarque comme « Mais tu le sais que je t'aime, tu le sais que je te trouve beau, que je te trouve belle. » Mais il suffit pas de le savoir ou pas, mais de passer à l'acte, de le dire, de le vivre, de mettre l'autre en valeur, de le rendre précieux à nos yeux. Il y a l'idée d'être concret. Et le deuxième aspect, c'est faire la joie de l'autre. Faire sa joie de l'autre, faire la joie de l'autre. Est-ce que de mon côté, je sais encore me rendre désirable, beau à ses yeux ? Est-ce que j'enivre encore l'autre pour qu'il ne soit pas tenté de voir ailleurs ? Oui, j'ai aussi ma part dans le travail sur l'unité du couple, dans le maintien de cette unité et dans l'exclusivité de l'un vis-à-vis de l'autre. Dans notre pays, malheureusement, 45% des mariages finissent par un divorce. Et pour un tiers d'entre eux, c'est l'infidélité qui en est la cause. Bien sûr que dans les mariages entre chrétiens, nous avons un allié de choix dans notre relation, qui lui sait ce dont nous avons besoin, qui nous aide à garder cette unité, à souder le couple, qui nous aide à vivre ensemble, à apprendre à nous connaître, qui nous transforme aussi. Je ne suis pas le même que le jour où j'ai épousé Tania. J'espère en tout cas. Mais là encore, Salomon dans son texte remet en garde son interlocuteur en lui posant ces questions. Mais pourquoi t'amouracherais-tu de la femme d'autrui ? Sous-entendu, mais tu penses vraiment que tu trouveras quelque chose que ton conjoint ne peut pas t'amener ? Pourquoi donnerais-tu tes caresses à une inconnue ? Sous-entendu, tu oublies que ton corps n'est pas partagé, tu es un avec ton conjoint. Et Salomon termine en rappelant qu'on ne se cachera jamais qu'on ne cachera jamais rien aux yeux de Dieu. L'Éternel surveille toute la conduite d'un homme. Il observe tout ce qu'il fait. Celui qui fait le mal sera pris à ses propres méfaits. Il s'égarera enivré par l'excès de sa folie. On peut cacher, mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Et il rendra chacun selon ses œuvres. Mais, heureusement, il y a un mais pour nous, c'est que Dieu ne nous a pas laissés dans l'ancienne alliance. Car moi, le premier, j'aurais pas pu tenir. Que ce soit personnellement, dans mon couple. Non, heureusement, nous avons la chance d'être devenus enfants de Dieu. Non par notre mérite, notre obéissance, mais par l'œuvre libératrice de Jésus-Christ, qui nous affranchit du péché, qui nous pardonne nos péchés passés, nos chutes présentes et celles à venir. Bien sûr, comme Paul nous le rappelle, cela ne nous autorise pas à chuter, à pratiquer le péché, car notre nouvelle nature que Jésus nous donne d'enfant de Dieu nous fait prendre conscience par l'Esprit qui vit en nous de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon pour moi. Et je peux, à chaque fois que la tentation arrive, renoncer, dire non, stop, c'est plus dans ma nature de pratiquer telle ou telle chose. En hébreu, on peut lire hébreu 2, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés, lui. On a un allié de choix. J'ai tout en Christ pour ne pas rentrer, céder à la tentation, qu'elle soit. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas ignorer ce que Dieu dit. Que Dieu est un Dieu d'ordre, et en dehors de ce que lui dit qui est bon, il n'y a pas d'autre possibilité. Mon obéissance volontaire, sans contrainte, doit être naturelle, comme la nouvelle nature qu'il m'a donnée, par et en Jésus-Christ. Cela demande quoi ? De connaître ma nouvelle nature, qui je suis maintenant, en lisant, étudiant, méditant la parole de Dieu, en passant du temps avec mon Dieu, par la prière, la louange, etc. Alors concrètement, en conclusion, pour moi, quelle que soit ma situation, comment ce texte de Proverbes 5 se traduit-il dans ma vie ? Si je suis célibataire, je peux être jeune et célibataire, comme le fait Salomon dans ce texte. Sois attentif à la sagesse biblique, celle enseignée dans la parole de Dieu. Prête l'oreille à ses paroles, écoute, laisse-toi enseigner par elle, et par tes aînés, et surtout, mets-la en pratique. Concrètement, tant que tu n'es pas marié, préserve-toi. Reste maître de ton corps. Ne le partage pas à quiconque d'autre que ton futur conjoint, si Dieu t'en donne un. Dans le cadre du mariage, le seul véritablement donné pour la relation sexuelle. Aie le courage de marcher à contre-courant de ce que propose, de ce qu'essaye d'imposer le monde comme étant une liberté, la liberté sexuelle. Ce qui est un mensonge qu'essaye de nous faire croire Satan. L'impudicité, c'est-à-dire le fait d'avoir des rapports intimes entre deux personnes non mariées, est lourdement condamné dans la Bible. Dans 1 Corinthiens 6, 18, on peut lire « C'est pourquoi, fuyez l'impudicité. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. » Que veut dire pêcher contre son propre corps ? Ça signifie tout simplement que celui qui se livre à l'impudicité engage son propre corps dans un processus de destruction, car ce péché engage l'être humain dans son entièreté, entraînant ainsi des conséquences dans le corps, l'âme et l'esprit. Oui, j'engage mon corps dans un processus de destruction si je ne respecte pas le cadre voulu par Dieu. Alors demande à Dieu de t'aider à lui rester fidèle avant tout. Et voilà pourquoi aussi la Bible demande de fuir toutes ces choses, toutes ces pratiques. Tu peux être célibataire aussi, par contre, depuis plus longtemps. On parlait des jeunes célibataires. Tu peux être aussi célibataire depuis plus longtemps. Tout comme le jeune, reste maître de ton corps. Ne pratique en aucun cas toutes ces choses. Et rappelle-toi que Jésus-Christ comble tous tes besoins, même physiques. Tu n'as pas besoin de chercher ailleurs. Considère-toi comme ayant un don particulier, celui du célibat. comme Paul le rappelle dans 1 Corinthiens 7:7 si vous voulez le lire. Tant que vous le vivez, ce célibat, c'est un don de Dieu, tout comme le sera le mariage si vous en recevez le don. Nous devrions recevoir notre situation de vie, qu'il s'agisse du célibat ou du mariage, comme un don de la grâce de Dieu pour nous. Cela n'empêche pas un jour que le don du mariage se présente à votre porte. Un don n'est pas forcément donné à vie, même si c'est possible. Dans cet état de célibat, ne te mets pas dans une situation qui ne respecte pas les ordonnances divines quant au cadre des relations sexuelles. Si Dieu te donne le don du célibat, il te donne aussi toutes les capacités d'honorer Dieu dans ce cadre-là. Si je suis marié, comme nous l'a rappelé le texte du jour, reste dans la joie de la fidélité. Travaille à faire ta joie de l'autre, ainsi qu'à faire la joie de l'autre. Joue ce rôle de témoin du bonheur, de la joie, de la fidélité dans ton couple. Notamment justement auprès des plus jeunes, afin qu'ils aient, en te voyant, en vous voyant, l'envie, le désir de vivre la même chose. Sois ce lien entre les générations, sois un soutien pour les plus jeunes, dans leurs difficultés, dans leurs combats, face à ce que propose le monde. Quelle responsabilité! Bien sûr, on ne peut pas évoquer ce matin toutes les situations particulières, intermédiaires, possibles dans lesquelles peuvent se trouver les uns et les autres. Mais un grand principe reste valable pour tous. Ce que Dieu demande, la sagesse divine, est le seul chemin possible à ma vie d'enfant de Dieu. Car lui sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Si Dieu le demande, je peux être sûr, c'est sûr et certain, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Alors bien sûr, il peut m'arriver de tomber, de décevoir mon Dieu, mais je ne dois rien cacher. Il me faut le reconnaître, demander pardon, lui faire confiance, croire en ma nouvelle nature d'enfant de Dieu, libéré du péché, libéré de céder à la tentation, pour ne plus recommencer et dire non. Comme verset final, je vous laisserai, c'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie toute entière, corps, âme, esprit. Aie confiance en lui et il agira.